avoir raison avec Judith Butler. De toutes celles et ceux, écrivaines, philosophes, biologistes, architectes, américaines et américains, dont il a été et sera question cet été dans cette série d'avoir raison avec, Judith Butler est la seule encore vivante. La seule donc à ne pas avoir fini d'écrire, de s'engager et peut-être même d'évoluer. À cette première difficulté s'en ajoutent plusieurs autres. Un style, à la complexité proverbiale, qui a longtemps fait obstacle, dit-on, à sa traduction en français, mais étrangement pas dans d'autres langues. Une inscription dans l'histoire du féminisme, marquée dans les années 70 par l'émergence d'une approche lesbienne de la question et par la rupture, toujours caricaturée, entre universaliste et essentialiste. Mais aussi dans l'histoire politique d'une gauche américaine à laquelle Butler appartient et qui se pose alors, sérieusement, la question de l'engagement. Surtout, ce qui rend si délicat l'exploration de la pensée de Judith Butler, et donc la démonstration de la meilleure façon d'avoir raison avec elle, se résume en un mot, un concept clé auquel son nom est irrémédiablement attaché, une théorie, disent ses détracteurs, le concept de genre. L'idée selon laquelle l'identité sexuelle n'est pas donnée mais qu'elle est construite, qu'elle se joue et se rejoue, se performe dans les rapports sociaux. Bref, pour reprendre la fameuse citation de Simone de Beauvoir, qui ouvre en exergue la grande œuvre de Butler, Trouble dans le genre, on ne naît pas femme, on le devient. Alors comment Judith Butler est-elle devenue Judith Butler? Comment son propre nom, avec tout ce qu'il charrie de malentendus, d'oppositions intellectuelles et politiques, lui a-t-il peu à peu échappé et comment parvient-elle à se le réapproprier? C'est ce que nous allons tenter de déterminer tout au long de cette semaine. Demain, mardi, il sera question de la théorie queer et de la bombe Trouble dans le genre, publiée en anglais en 1990. Et on sera avec Sam Boursier. Mercredi, on évoquera l'histoire compliquée de sa traduction en français et de sa réception dans le monde avec Eric Fassin. Jeudi, nous inscrirons Judith Butler dans l'histoire et les débats féministes avec Elsa Dorlin. Et enfin, vendredi, il sera question des derniers engagements autour d'un autre concept clé, celui de vulnérabilité. Et notre invité sera Corinne Peluchon. Mais tout de suite, remontons aux origines de la formation intellectuelle.
Cependant, depuis que je travaille, j'ai toujours essayé de comprendre la relation entre le désir et la reconnaissance. On retrouve ce problème dans le travail de Hegel, sa phénoménologie. Et là, le désir humain s'entend, mais également le désir animal. Le désir demande, appelle une reconnaissance, la reconnaissance de la part de l'autre. Et la reconnaissance dans l'autre aussi.
Reduplicated in the other,
c'est-à-dire que l'on cherche
an essential relationship to others.
Non pas à se trouver imité, redoublé dans l'autre, mais à y trouver avec l'autre une relation essentielle.
Et deux invités pour commencer cette semaine d'émission Avoir raison avec Judith Butler. Nous sommes au téléphone avec Catherine Malabo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur de philosophie à l'université de Kingston au Royaume-Uni. Vous êtes spécialiste des gueules dont parlait à l'instant Judith Butler dans l'archive qu'on vient de passer, puisque elle-même, et comme vous, a consacré sa thèse au philosophe allemand. Vous avez d'autres intérêts communs, hein, la psychanalyse, le féminisme, et vous avez co-signé en 2010 « Soit mon corps », c'était aux éditions Bayard. Nous sommes aussi toujours au téléphone avec Michel Fer. Bonjour.
Bonjour.
Vous y êtes philosophe, cofondateur de la maison d'édition new-yorkaise Zone Books, et vos travaux portent essentiellement sur l'impact du capitalisme sur les rapports sociaux, mais aussi sur les politiques migratoires. Vous êtes un très fin connaisseur, Michel Fer, de l'œuvre de Michel Foucault, le philosophe français si important pour comprendre Judith Butler. Il y sera nécessairement question au cours de cette émission, et même, j'ai envie de dire, de toute cette semaine. Mais pour commencer, j'aimerais vous demander dans quelles circonstances vous êtes entré en contact avec Judith Butler, à la fois avec la personne Judith Butler et avec sa pensée. Et qu'est-ce que ça a pu produire chez vous, Catherine Malabo?
La première fois que je suis entrée en contact avec sa pensée, c'était en Angleterre, il y a bien longtemps, à un colloque sur la philosophie contemporaine. Et j'ai vu, il y avait un étal avec des livres, et j'ai vu Gender Trouble. Et voilà, j'ai acheté ce livre en me disant, tiens, de quoi ça parle, etc. Et c'est là que j'ai découvert toute cette histoire, la différence entre sexe et genre, Là, je vous parle, ça doit être à peu près dans les années 90.
C'est-à-dire voilà. Que le livre est paru en anglais en 1990, et donc vous découvrez
voilà,
ça.
Il venait de sortir, et donc je l'ai découvert comme ça.
Et vous, Michel Ferre?
C'était peut-être un tout petit peu plus tard. Enfin, j'avais commencé déjà à travailler un petit peu sur les questions du féminisme aux États-Unis. J'avais écrit 2-3 petits trucs là-dessus. Donc, j'avais commencé à lire du Judith Butler. Et puis, j'étais invité plusieurs fois à Berkeley où elle enseigne. Et donc, c'est là où nous sommes rencontrés. Je dirais au 92-93, et on est devenu amis à ce moment-là et depuis là.
Oui, parce que souvent on ne cite pas le sous-titre de Troubles dans le genre, mais c'est le féminisme et la subversion de l'identité. C'est vraiment dans ce mouvement féministe, Michel Ferre, qu'est inscrit l'œuvre et que sont inscrits les travaux de Judith Butler.
Oui, alors c'est à la fois elle s'inscrit évidemment dans cette histoire. Avec toujours ce qui est systématique chez elle, avec un certain scepticisme, non pas par rapport évidemment au féminisme, aux engagements féministes, mais par rapport au discours féministe dans lequel elle s'inscrit et qui la précède. Cette question du genre la travaille depuis très très longtemps, depuis bien avant d'ailleurs. Son entrée en philosophie, même si, comme le petit passage que vous avez qu'on a écouté au début, le signal, il y avait au fond un double aspect, c'est-à-dire que elle a commencé véritablement ses études de philosophie en étant un Fulbright Scholar, donc une élève invitée à Heidelberg.
C'est une bourse, oui, très prestigieuse, oui. La bourse Fulbright, qui permet à des étudiants américains d'aller étudier à l'étranger ou à des étudiants étrangers de venir étudier aux États-Unis.
Exactement. Et donc, elle est allée en Allemagne, elle a étudié auprès de Gadamer, l'idée était d'étudier l'idéalisme allemand, mais dans une tradition qui était à la fois la phénoménologie, l'herméneutique avec Gadamer, et aussi l'école de Francfort. Et donc, c'est avec ce bagage-là qu'elle est arrivée à Yale pour son doctorat, et comme elle le dit, avec cette perspective, du moins ce cadrage hegélien. Ce cadrage hegélien, c'est-à-dire, en tout cas, l'hegel de la phénoménologie de l'esprit et ce rapport entre désir et reconnaissance.
Oui, puisque le sujet de sa thèse, c'est sujet du désir, réflexion hegélienne au XXe siècle en France. Donc, vous n'avez pas encore parlé de cette dimension française, voilà. Puisque souvent, on associe Judith Butler à ce qu'on appelle la French theory, qui n'a de French finalement que le nom. On garde toujours le mot en anglais. Hein, c'est ce qu'explique Cynthia Krauss, ouais. La traductrice de Troubles dans le genre en français. Elle dit, on garde French theory comme French féminisme d'ailleurs, puisque ce sont des interprétations très américaines de pensée française. On aura sans doute l'occasion d'y revenir, Michel Ferre, mais je voulais entendre Catherine Malabou sur ses origines aussi, ses premiers travaux de Judith Butler autour de Hegel, son passage à l'université d'Heidelberg en Allemagne. Vous êtes vous-même, je le disais, spécialiste d'Heidegger, vous êtes vous-même spécialiste du philosophe Hegel. Voilà, je retrouve, Catherine Malabou. Qu'est-ce que la pensée de Judith Butler doit à Hegel?
D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que je crois que elle, comme moi, c'est un point commun. On a commencé à écrire sur Hegel à une période où on pensait que Hegel était mort. Hein, après beaucoup de penseurs, vous avez cité Heidegger, mais on peut aussi citer Derrida ou Deleuze. Il y avait cette idée que le hegelianisme était quelque chose de dépassé parce que il donnait un sens à l'histoire, parce que on n'était plus dans la pensée du système, etc. Or, ce qui m'a beaucoup intéressé chez Butler, c'est qu'au contraire, elle a montré que pour penser ce qu'était un sujet, on ne pouvait pas congédier la dialectique, que la notion de différence n'était pas suffisante, en fait, pour rendre compte de la subjectivation, et qu'il fallait réinterroger donc tout ce que Hegel nous avait dit du rapport à l'altérité dans la constitution de soi. Donc, de mon côté, j'avais tenté de réouvrir aussi le hegelianisme à partir de sa plasticité pour montrer qu'il ne s'agissait pas du tout d'une philosophie close sur elle-même, etc., mais qu'au contraire, elle pouvait donner lieu à de nouvelles interprétations qui nous permettaient de comprendre notre présent.
Et donc articuler, comme on l'a entendu encore une fois dans cette archive qui est extraite de l'émission de Frédéric Vance, Matière à penser, qu'il avait reçue en 2018. On mettra le lien sur la page, évidemment, de l'émission. Articuler autour de cette question du désir et de la reconnaissance, Catherine Malamud.
Voilà, parce que, effectivement, peut-être, je ne sais pas ce qu'en pensera Michel, mais c'est une dimension qui manque peut-être dans le travail de Foucault, à savoir qu'il y a dans le désir de la négativité. Il y a de la négativité, il y a de la contradiction. Elle joue d'ailleurs sur les deux sens de sujet, subjectivation, assujettissement. Alors Foucault aussi a parlé de ça, mais il n'a pas été jusqu'à dire qu'il s'agissait d'une relation dialectique où, de fait, dans un sujet, à l'intérieur même d'un même sujet, il y a un maître et il y a un esclave. Et c'est, comme on sait, la base de la logique de la reconnaissance chez Hegel. Le désir met toujours en présence deux positions contraires, à savoir l'une qui veut imposer son désir et l'autre qui ne la reconnaît pas, qui ne reconnaît pas ce désir. Et ça, je crois que Butler l'a vraiment réactualisé en l'inscrivant non plus tant dans la question de la conscience, comme l'avait fait Hegel, mais dans la question du corps. Et ça, je pense que c'est très très important.
Michel Fer.
Oui. En tout cas, manifestement, c'est de là qu'elle vient, ce qui explique d'ailleurs que sa thèse, donc sujet de désir, subject of desire, est une thèse qui, comment dire, reprend Hegel pour critiquer la philosophie française contemporaine, et en particulier, ce qui est intéressant vu ses rapports avec Foucault par la suite, particulièrement Foucault et Deleuze. Il me semble quand même que même si comment dire, la perspective, le cadre désir reconnaissance n'a pas bougé, et que effectivement ça fait un décalage, puisque après tout, comme le disait d'ailleurs Foucault dans un article sur Deleuze, il expliquait que leur génération commune donc se définissait essentiellement par un espèce de d'anti-hegelianisme généralisé. Et donc, il s'agissait en particulier de sortir des questions de subjectivité telles que les Hegeliens l'avaient posées, en essayant de se trouver des lignes de fuite vers des constructions asubjectives chez Deleuze, des lignes de fuite en prenant la subjectivité du point de vue des rapports de pouvoir qui la constituent, et non pas du point de vue de l'intériorité chez Foucault. Et dans un premier temps, je crois que Judith est assez critique de ça, puisqu'elle vient de ce point de vue hegelien, mais ensuite, elle va s'en nourrir sans quitter sa perspective, mais précisément, comme Catherine le disait, en essayant de penser ce rapport entre subjectivation et assujettissement. Alors, est-ce qu'elle le pense de façon dialectique ou non ? Là, nous aurions peut-être une divergence, mais ça n'a pas beaucoup d'importance.
Ça n'a pas d'importance, mais ça permet quand même de comprendre un petit peu, parce que c'est vrai que là, on manipule depuis tout à l'heure des concepts qui ne sont pas forcément évidents, ceux de constitution du sujet, de subjectivation. On comprend bien la question de la domination, c'est-à-dire comment est-ce que chaque individu se construit à la fois dans un contexte, dans des rapports dialectiques, c'est la fameuse dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, mais que cette façon de se constituer contrainte, on va dire, est aussi une forme de liberté, c'est, elle lui réserve une forme de liberté, en tout cas, si je m'exprime bien, Catherine Malamud, en tout cas, j'essaie de le faire de façon intelligible pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté, il y a à la fois, on est dominé, et en même temps, c'est dans cette domination qu'on se construit comme individu, et c'est de ça que parle fondamentalement Judith Butler.
Oui, ben le livre donc qu'on a co-signé, que vous avez rappelé, s'appelle « Sois mon corps ». Donc ça, c'était sa traduction à elle de ce que le maître est censé dire à l'esclave. « Sois mon corps », ça dit tout. C'est-à-dire que lorsqu'on vient au monde, on n'est jamais son propre corps. C'est toujours quelqu'un, on va dire le maître. Alors le maître, on peut en parler tout à l'heure. Hein. Il y a beaucoup de significations possibles. Mais il y a toujours un maître qui nous dit « Sois mon corps ». C'est-à-dire on est le corps de quelqu'un d'autre. Qu'il soit façonné par des normes, par des contraintes sociales, etc. Donc là, vous avez raison, c'est qu'après, le processus de subjectivation consiste à sortir, enfin, à travailler cet assujettissement pour réintégrer, pour inventer son corps. Et c'est là que la performativité joue son rôle. Hein, il faut toujours qu'on s'approprie son propre corps à partir d'un à partir en fond d'une aliénation, à partir de quelque chose ou quelqu'un qui nous demande d'être son corps.
Alors Michel Fer, ça c'est, on aborde un concept qui est vraiment clé et qu'il faut, auquel il faut consacrer un petit peu de temps, si vous le voulez bien, qui est celui de la performativité, c'est-à-dire la façon dont on performe, qui n'est pas une performance. Je crois que vous vous étonnez beaucoup à cette distinction, c'est-à-dire la façon dont on rejoue en permanence, comment dire, son identité dans les rapports sociaux, qui est une façon à la fois de la construire et en même temps de la subir. Si je reprends un peu cette façon à la fois paradoxale et dialectique de dire les choses.
C'est ça. Je crois que le premier grand enjeu philosophique auquel s'est confronté Judith Butler, c'était comment penser la construction d'une subjectivité sans poser un sujet toujours déjà là. C'est-à-dire comment comprendre le fait que la subjectivité est l'effet d'une construction. Ce qui ne signifie pas qu'on est simplement une marionnette construite, mais que c'est précisément dans cette construction qui répond à des normes, qui répond à des injonctions, et en répétant l'actualisation de ces normes, en répondant aux injonctions, que une forme d'autonomie très relative peut se constituer. Et donc cette notion de performativité, c'est ça. C'est-à-dire que, évidemment, elle le travaille en particulier sur le genre, mais pas exclusivement, mais en particulier sur le genre, c'est l'idée que on est appelé à se conduire en homme ou à se conduire en femme. Il y a des injonctions à se conformer à une espèce d'idéal de la féminité ou de la masculinité qui a cette caractéristique amusante qu'il n'existe pas. C'est-à-dire que personne n'a jamais vu l'original qu'il s'agit d'imiter. Et néanmoins, il s'agit d'essayer de l'imiter et cette imitation ne se fait pas une fois pour toutes. C'est en cela, d'une certaine façon, que Judith Butler embraye et se détache de Simone de Beauvoir en particulier. Il y a effectivement ce point de lancement, on ne naît pas femme, on le devient. Mais ce devenir, il ne se joue pas une fois pour toutes, mais il se joue sans cesse dans des actes qui ne cessent d'actualiser, de répéter, de reproduire cette construction du genre. Et l'objectif du point de vue des injonctions, du point de vue des normes, c'est que, à force de répéter, on a l'impression que c'est soi-même qui s'exprime. C'est-à-dire que l'objectif immanent de cette construction par acte, c'est de faire en sorte qu'on a l'impression que, au fond, le genre, c'est cette espèce d'attribut spontané qui s'exprime à travers moi. Mais c'est cette idée que, au fond, c'est la répétition des actes et la répétition incessante des actes qui intériorise l'impression que ça fait partie de moi et que c'est mon genre ou le genre qui s'exprime à travers moi.
Et que ce genre tient de quelque chose de naturel, de la nature, Catherine Malabou. C'est une façon aussi, pour moi, de vous emmener vers une autre question, qui est celui du déterminisme. C'est-à-dire que souvent, on reproche à Judith Butler, comme d'autres pensées de ce genre, d'enfermer, évidemment, à la fois de faire éclater complètement les cadres existants, et en même temps d'enfermer dans une forme de déterminisme, les uns et les autres.
Et un déterminisme au sens où on serait finalement réduit, à, comme disait Michel, à répéter son genre, c'est ce que vous voulez dire?
Oui, c'est ce que je veux dire, oui.
Parce que moi, j'ai jamais, honnêtement, j'ai jamais trouvé quoi que ce soit de déterministe dans les textes de Butler. Je crois que c'est une accusation qui, à mon sens, ne tient pas à la route. Non pas que ce soit une philosophe de la liberté pure et simple, hein, évidemment, pour toutes les raisons qu'on vient de rappeler, les choses sont plus compliquées. Mais déterminisme, pour moi, au contraire, je crois que ce qu'elle dit, c'est que le genre est quelque chose de plastique, et que, évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'on peut changer de genre en permanence, et que là, les genres sont totalement fluides, mais enfin, quand même, il y a la création, il y a un espace pour la création de notre identité. Je trouve au contraire que c'est une philosophie ou une pensée, en tout cas, qui ouvre la porte à une invention, à l'invention de soi. Donc le déterminisme, bien sûr, il est présent parce que on est toujours, on est dans une société, dans un certain contexte, etc. Mais les normes sont quand même révisables. Enfin, je crois que la performativité, ça veut dire ça aussi. On peut faire, comme elle dit, de la parodie. Il y a quand même beaucoup de place pour l'ironie, la parodie, le théâtre. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au théâtre, Butler. Donc, à Brecht en particulier. Donc, je pense quand même que c'est aussi une pensée de l'émancipation.
Ah ouais, puisque vous citez Brecht, on écoute les Doors. Les Doors, Summertime, un petit air de campus californien dans les années 70. Michel Fer, c'est important ce que vient de dire Catherine oui. Malabou. On va continuer sur cette idée de la performance, de la performativité, de la possibilité de jouer. Et justement, vous n'avez pas encore fait tout à fait cette différence entre performance et performativité.
Oui, non, je voulais revenir sur ce que, et rebondir sur ce que Catherine vient de dire. C'est que une des meilleures preuves de la grande force du travail de Juliette Butler, c'est qu'on lui a fait deux reproches exactement contradictoires. D'un côté, comme Catherine vient de le relever, on lui a reproché à tort un espèce de déterminisme. Ah, vous nous dites que on est complètement déterminé par les normes, par les injonctions, forcé de les reproduire plutôt que de les répéter, ce qui n'est pas la même chose. Là, c'est le lien avec Deleuze qui serait intéressant. Il n'y a aucune forme d'autonomie, on est complètement déterminé. Ça, c'est un type de reproche qu'on lui a fait. Mais on lui a fait aussi le reproche exactement inverse. Précisément, ça nous ouvre à la performance. C'est-à-dire, ah, vous nous dites que le genre, c'est en fait, c'est une construction, ce qui veut dire que il suffit, au fond, de s'habiller autrement, il suffit de se présenter autrement, et hop, on a cassé le genre et on s'est inventé un nouveau genre. Donc en fait, on lui a fait les deux reproches exactement inverses. Le deuxième reproche, d'ailleurs, était plus compliqué, parce que si le premier reproche avait été fait par des gens qui voulaient la critiquer, le second n'était souvent pas un reproche, mais c'est sur ce malentendu qu'une partie de son succès s'est faite. C'est-à-dire l'idée que, ah ouais, le genre, c'est une pure performance, donc on peut se le construire comme on veut. Alors je pense qu'elle ne dit évidemment ni l'un ni l'autre. Ce qu'elle dit, c'est qu'il y a effectivement des normes et des injonctions, et il est bien difficile et souvent bien dangereux de ne pas s'y plier, de ne pas s'y soumettre, pour autant même qu'on a l'impression que l'on s'y soumet, parce que la force des normes, c'est précisément d'apparaître normal, c'est-à-dire que le fait de s'y soumettre n'est pas ne donne pas l'impression qu'on se soumet à une règle, mais qu'on se conduit normalement. D'un côté, c'est effectivement pas facile d'échapper aux injonctions, voire même de les plier, voire même de leur donner la malléabilité, la flexibilité, la souplesse dont parle Catherine. Mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire que on y échappe. Qu'on n'y échappe pas, qu'on est nécessairement condamné. Mais c'est là où les choses sont vraiment intéressantes, je trouve, dans la philosophie de Judith Butler, c'est qu'on y échappe non pas en s'échappant une fois pour toutes, non pas simplement en disant non, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait sûr de la négativité de l'affaire, mais on y échappe en faisant émerger de la différence dans la répétition. Ça, c'est le côté, je dirais, deleuzien de Judith Butler, même si elle n'a pas, en tout cas consciemment, beaucoup d'atomes crochus avec Deleuze. Mais néanmoins, il me semble que c'est cette idée que c'est dans la répétition que se constitue la différence, et en particulier parce que cette répétition fait voir, pour autant qu'on ouvre bien les yeux, que on ne se conduit pas normalement, mais on se conduit en répondant aux injonctions et aux normes. Et donc cette idée d'une résistance par répétition est très intéressante, et là aussi c'est ce que Catherine disait par rapport à la théâtralité, et qui vient du fait que en anglais, le mot « acte » a deux sens. D'un côté, il a le sens qu'il a en français, comme on parle d'acte d'agir, de langage, oui. C'est-à-dire de phrases qui font des choses, c'est la tradition d'Austin, mais aussi d'acte juridique, c'est-à-dire d'acte conscient qui transforme des situations et des relations. Donc il y a ce sens-là en anglais aussi. Mais en anglais aussi, « acte », c'est ce que fait un acteur. Par exemple, quand on dit « oh, il a l'air fâché, but it's just an act », ça veut dire que c'est surjoué, c'est joué, c'est prétendu. Il me semble que cette ambivalence ou cette ambiguïté de l'acte est précisément ce qui permet de comprendre le rapport entre performance et performativité, mais aussi de comprendre là où se loge la possibilité, sinon d'échapper aux injonctions et aux normes une fois pour toutes, du moins de jouer suffisamment avec elles pour élargir les carcans du genre et les carcans des normes en général et essayer de constituer d'autres rapports sociaux et d'autres rapports à soi-même.
Alors Catherine Malabou, Michel Fer vient de citer Austin, c'est évidemment John Austin, l'auteur de « Quand dire, c'est faire » et ça nous amène pour terminer cette première émission sur l'importance des mots pour Judith Butler. Il y a un ouvrage en français, l'un des premiers qui a été traduit en français, c'est « Le pouvoir des mots politiques du performatif » qui a été publié aux éditions Amsterdam en 2004. Cette importance des mots vient se loger aussi dans la psychanalyse, l'importance que Judith Butler a donnée dans son travail, dans sa réflexion, à la fois à Freud d'un côté et à Lacan de l'autre.
Mmh. Mais je crois que tout ce qu'a dit Michel est tout à fait intéressant. Je voudrais ajouter que il en est, je pense, de la performativité chez Butler comme du deuil chez Freud. À savoir, ce qu'on peut se demander, c'est s'ils sont jamais réussis. La différence.
D'ailleurs, Judith Butler a travaillé sur cette question du deuil.
Voilà, c'est-à-dire que Austin, quand il parle du performatif, un performatif pour Austin, quand il est effectué dans les règles, il réussit. Par exemple, si vous dites je baptise ce bateau X ou Y, le bateau est de fait baptisé. En ce qui concerne le genre, bon, il y a une dimension de performance, bien sûr, dans la performativité, mais il y a aussi une dimension d'inaccomplissement. C'est-à-dire que, comme chez Freud, on ne sait jamais l'acte, comme disait Michel, est réussi ou pas. Et c'est pour ça qu'on parle. C'est pour ça que personne n'a jamais le dernier mot, si vous voulez. Et l'importance des mots, que vous soulignez très justement, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est une sorte d'infini qui vient s'inscrire dans l'impossibilité à jamais d'être qui on est, quoi. On n'est jamais, effectivement, même si le genre a une dimension plastique, on n'est jamais, jamais son genre. Donc, moi, je crois qu'il est important, et c'est aussi faire la part de la répétition, en effet, de montrer que si on a à répéter constamment l'identification, c'est parce qu'elle n'est jamais achevée, elle n'est jamais réussie.
Merci beaucoup Catherine Malabou, merci Michel Fer. C'est passé très très vite cette première émission. Heureusement, oui. Il nous en reste quatre. Malheureusement, vous ne serez plus avec nous, mais vous pourrez les écouter. Et j'invite aussi nos auditeurs à réécouter, à podcaster l'émission sur la page internet de Avoir Raison avec Judith Butler, où trouveront aussi toutes les références bibliographiques et pourront comme ça aller lire vos livres. Michel Fer et Catherine Malabou, merci beaucoup d'avoir participé à cette première émission et merci à Vanessa Nadja pour la réalisation. À la prise de son aujourd'hui, c'était Sylvain Latu.